Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'émission que voici est le dixième volet d'un entretien en 12 parties que l'écrivain Roger Caillois accorda à Janine Worms en 1970. Dans cet épisode, l'écrivain dresse des parallèles entre le registre du fantastique et l'histoire de la peinture, de Jérôme Bosch à Archimboldo.
Roger Caillois, vous nous avez parlé hier du fantastique dans la littérature, le fantastique qui s'exprimait sous trois formes, la première, le merveilleux, suivi par le fantastique et suivi en troisième terme par la science-fiction. Est-ce que le fantastique, ou le merveilleux, ou la science-fiction, trouvent également leur expression dans les arts, par exemple?
Oui, ils trouvent leur expression dans les arts. Il y a beaucoup de livres consacrés aux arts fantastiques. Je trouve même que ce sont un peu des bric-à-brac, parce qu'on y met à la fois, par exemple, des masques nègres, des monnaies gauloises, des tableaux de Jérôme Bosch, des tableaux surréalistes, etc. Je me demande si vraiment il y a des liens entre tout cela. Et je pense que, de la même façon, il fallait distinguer dans le fantastique littéraire le merveilleux et le fantastique proprement dit, le merveilleux se plaçant dans un monde complètement inventé, tandis que le fantastique étant une interruption du monde quotidien, de celui dans lequel nous vivons, nous déplaçons. Il me semble que, de même, dans la peinture, par exemple, cette même distinction existe et qu'on peut différencier ou qu'on peut mettre à part les tableaux du genre de ceux de Jérôme Bosch ou de Bruegel, qui sont formés d'hybrides où des corps se finissent en nageoires de poissons, en ailes de papillons, ou en roues de moulin, ou en chaudron, etc., où tout est impossible, n'est-ce pas, où tout est impossible, où tout est formé de pièces composées les unes avec les autres, et puis d'autres tableaux où le fantastique n'apparaît pas si vite. Et quand j'ai écrit mon livre au seuil du fantastique, j'ai justement commencé par Jérôme Bosch et par Archimboldo pour leur enlever la qualité, pour essayer de leur enlever la qualité de peintre fantastique.
Je sais bien, mais en conséquence, les rattacheriez-vous au merveilleux? Là, il me paraît qu'il y a une contradiction, puisque hier vous nous disiez que le merveilleux était un monde rose, était un monde où les choses s'accomplissaient d'elles-mêmes, ce qu'elles ne pouvaient pas faire à ce moment-là. Les tâches étaient accomplies par des petits animaux prodiges, tout cela. Donc le merveilleux était rose, alors que quand même l'univers de Bosch ou de Bruegel sont des univers très effrayants, très noirs.
C'est vrai, mais peut-être que la différence n'est pas à voir sur ce plan-là, et qu'elle est justement dans le rapport avec la réalité. Donc le monde de Bosch, ou le monde de Bruegel, ou le monde de... Parlons pas du monde d'Archimboldo, qui est un simple monde de jeu, puisqu'il s'agit de composer des figures, par exemple, de marchandes de poissons uniquement avec des poissons, de marchandes des quatre saisons uniquement avec des légumes et des fruits, etc. C'est un monde de jeu, ou alors le monde de Granville, où on met les choses à l'envers, où ce sont des animaux qui tiennent la charrue et des hommes qui la traînent, etc. Où ce sont les poissons qui attrapent les pêcheurs à la ligne, etc. Tout ça relève du jeu, ne relève ni du merveilleux ni du fantastique. Il relève plutôt d'une sorte de mécanique. Et pour le monde de Bosch, c'est un monde, je crois, aussi emprunté. C'est un monde qui est emprunté soit aux enluminures de manuscrits, soit aux chapiteaux romans, et qui est un monde parfaitement fermé. Un monde, je veux dire, où le monde habituel, où le monde de tous les jours n'entre pas. Et dans le livre auquel j'ai fait allusion, j'ai au contraire choisi comme type de tableau fantastique un tableau de Bosch qui n'est pas connu et où on ne s'aperçoit pas d'abord qu'il entre dedans des éléments insolites et inquiétants. C'est le tableau qui s'appelle « Les noces de Cana ». Alors il y a le Christ, mais qui était un tout petit homme, qu'on aperçoit à peine. Et puis, il y a des gens autour d'une table, mais la table est vide. Et puis, il y a un personnage mystérieux qui regarde derrière la fenêtre, on ne sait pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui apporte, un domestique, qui apporte un cygne sur un plateau, et l'autre une hure de sanglier, et ça fait entrer en transe quelqu'un qui vient à leur rencontre. Il y a une étagère avec toutes sortes d'objets qui est difficile d'identifier, et une sorte de charlatan qui les montre avec une baguette magique. Si bien que dans ce tableau, rien n'apparaissait. inquiétant ou insolite au premier abord. On avait l'impression d'être un harpan nos, comme on en imaginerait un, se passant dans l'Antiquité biblique. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a très peu de détails qu'on peut attendre. De la même façon, j'ai regardé comme hautement fantastique un tableau que j'ai vu sur les pages sépia du dictionnaire Larousse, elle n'était pas en couleur à ce moment-là, et qui représente deux jeunes princes mérovingiens que le tableau appelle les énervés du Miège et qui dérivent très lentement les jambes emmaillotées sur une espèce de radeau, sur un fleuve très lent. Naturellement, le mot énervé est pour quelque chose, parce que ces gens sont le contraire de gens qui sont énervés, ils sont plus que calmes, ils sont affalés, ils ne peuvent pas faire un mouvement, et c'est que le mot énervé signifie à qui on a coupé les nerfs du jarret, afin qu'il ne puisse plus monter à cheval et que par conséquent il ne puisse plus devenir roi. Mais l'atmosphère de stupeur, de lourdeur, de lenteur, de fatalité qui vient de la dérive sur le bord de la Seine, avec l'impression de tombeau que donne le radeau. Il y a même une petite flamme dans une lanterne qui est accrochée là. Et puis c'est l'impression de désespérance que donne l'ensemble du tableau produit. J'ai eu l'occasion de le constater par des enquêtes que j'ai faites, presque immanquablement une impression d'horreur.
Je suis très heureuse que vous ayez pris ces deux exemples entre tous les exemples que vous auriez pu donner. Car, en effet, le tableau de Bosch, vous le classez parmi les tableaux fantastiques. C'est un très beau tableau. Bosch est un très grand peintre, en dehors de tout son côté anecdotique. Et le tableau de Jumièges est un tableau qui peut paraître...
Le tableau de Luminet, qui s'appelle Les Énervés, Isabelle Luminet. Oui. Oh, c'est un peintre tout à fait inconnu, il est très mauvais. Mais c'est le peintre qui s'appelle Luminet et le tableau s'appelle Les Énervés Jumièges.
Donc, c'est une œuvre plus que mineur, et pourtant, en tant que spectatrice, l'un des deux tableaux, le chef-d'œuvre, le tableau de Bosch, et l'autre tableau, le tableau plus que mineur, le tableau de Luminet, me produisent deux impressions tout à fait différentes. Le premier ne me donne aucune impression de fantastique, encore que je comprends qu'il réponde parfaitement à la définition que vous donnez du fantastique, et le second me laisse tout à fait saisie, stupéfaite et inquiète.
Le second, c'est-à-dire Les Énervés du Liège. Et je crois que c'est une, je vous disais qu'il me semblait que c'était une impression très générale. D'ailleurs, le fait qu'il ait été choisi pour qu'on le mette dans les pages sépia du petit Larousse ne doit certainement pas être un hasard. Mais il y a plus. Il y a plus, je crois qu'on peut, à partir de là, voir la différence entre le merveilleux et le fantastique, d'une part, dans un art simultané, comme l'est la peinture, et dans un art discursif, comme l'est un récit. Parce que dans un récit, il s'agira de produire la terreur à la fin. Mais il faut que la terreur survienne en conclusion, après une attente qui la prépare. C'est-à-dire survienne en fin de discours. Il faut que l'auteur s'appuie sur le déroulement dans le temps. Ce que ne peut pas faire le peintre qui présente d'un coup son tableau, où tous les éléments sont donnés simultanément. Par conséquent, ou bien, comme dans le merveilleux, le tableau fera appel à un fantastique évident. Ce qui est le cas de Bosch ou des peintres surréalistes. Nous aurons peut-être à revenir sur le problème spécial de la peinture surréaliste, mais de ce point de vue-là, c'est la même chose. On surprend d'abord et on surprend de la façon la plus agressive possible. Au contraire, dans ce que j'appellerais le fantastique insidieux, eh bien, le peintre ne fera rien pour attirer l'attention sur l'élément insolite. Au contraire, il tendra à le cacher, à le dissimuler. Et c'est petit à petit par l'examen du tableau. Et ici, c'est l'examen du tableau qui correspond au cours du récit dans le conte fantastique et qu'il remplace. Et c'est seulement à partir du moment où on a reconnu dans le tableau l'élément incompatible, l'élément troublant, c'est ce moment-là qui correspond au dénouement dans le fantastique proprement dit. C'est-à-dire que l'apparition, ce que j'ai appelé la déchirure du monde commun, du monde ordinaire, n'est pas donnée d'abord, comme dans les tableaux surréalistes ou comme dans les tableaux de Bosch, mais elle apparaît petit à petit par la remarque d'un détail, non seulement que l'on n'attendait pas, mais qui surprend et qui semble nier l'ensemble de la représentation du tableau.
Je suis contente que vous ayez parlé de l'instantanéité qui est propre à la vision d'une œuvre d'art et du temps qui accompagne la lecture d'un récit. Je crois qu'en effet, c'est un élément qui joue très fort dans le fantastique. Par exemple, lorsque vous parlez de ce tableau qui, je crois bien, est de Gossaert, où comme seul élément fantastique que l'on remarque après une longue, après une vue attentive du tableau, le seul élément fantastique est cette patte griffue qui dépasse de la robe de ce personnage qui, je crois bien, est un ange. Pour vous, ce tableau devient fantastique. Il l'est, en effet.
Il l'est à plusieurs reprises, si nous parlons bien de la même chose. Il me semble qu'il s'agit d'une tentation de saint Antoine. Et le personnage dont il s'agit n'est pas un ange, mais la reine de Saba, me semble-t-il. Mais ce qui est intéressant, c'est les tentations de saint Antoine, c'est un thème fantastique, qui a été presque traité par tous les grands peintres fantastiques du Moyen-Âge. Et il y a deux façons de tenter le pauvre Saint-Antoine. C'est le drame du diable, d'ailleurs. Ou bien c'est un diable qui fait peur, ou c'est un diable qui séduit. Un diable bourreau et un diable séducteur, n'est-ce pas? Alors, ou bien il présente de jolies femmes nues à Saint-Antoine, ou bien il le menace avec de supplices épouvantables à l'aide de démons terrifiants avec des ailes de chauve-souris et d'énormes griffes. Et ce qui surprend dans ce tableau dont vous parlez, c'est le calme absolu. Il n'y a pas du tout de scène de séduction. La reine de Saba, si c'est elle dont il s'agit, est très digne, très convenable, habillée d'une grande robe blanche, n'est-ce pas? Et elle présente, si je me souviens bien, soit une coupe, soit une fleur au sein. Et ceci est dans une double perspective de rocher qui calme la vision et qui tranquillise l'esprit. Et vraiment, le saint n'a aucune raison de ne pas accepter le don d'une dame qui semble si belle et qui semble presque une dévote lui offre. Mais si l'on regarde de plus près, on est d'abord surpris de la composition générale du tableau et qui dirige presque automatiquement par la ligne des arches vers le sol, n'est-ce pas, et vers les pieds qui dépassent de la robe du personnage maléfique. Et on s'aperçoit qu'elle a des serres d'oiseaux. Or, les serres d'oiseaux sont caractéristiques des personnages démoniaques dans toute l'iconographie médiévale. Et le saint, comme le spectateur d'ailleurs, à la suite, comprend qu'il doit se méfier de cette apparition.
Eh bien, serait-ce un récit, ce premier signe annonciateur, enfin, ce premier signe qui peut mettre la puce à l'oreille, si je puis dire.
Il n'apparaîtrait qu'à la fin.
Non, il aurait peut-être pu apparaître au début du récit, mais peu à peu, ce signe se serait développé et tout le récit aurait basculé vers une angoisse générale. Par exemple, au récit de Maupassant, La Horla, ou alors ce récit bien plus inquiétant encore, La Nuit, où un tout petit signe peu à peu gagne toute la ville, tout Paris, tout ce qui compose le conte. Et dans un tableau instantané, ce premier petit signe annonciateur ne peut pas se développer. Ça n'est que précisément un signe.
Oui, eh bien,
est-ce qu'il suffit à provoquer l'inquiétude de du fantastique?
Oui, je pense qu'à partir du moment où même dans un tableau qui n'était pas fait pour provoquer l'inquiétude, cette inquiétude peut apparaître au fur et à mesure de la lecture du tableau. Supposez que les personnes qui ont peur, qui sont stupéfaites par les énervés de Jumièges dont nous parlions il y a un instant, supposez qu'ils aient lu les récits des temps mérovingiens d'Augustin Thierry, où l'histoire de l'énervement des deux jeunes princes est contée en long et en large, le tableau ne leur ferait pas peur, ne les inquiéterait pas. Et c'est pourquoi il faut faire attention dans un tableau ou dans un récit, que c'est à la condition de connaître le contexte que le tableau peut devenir inquiétant. Les éléments qu'on voit rassemblés dans les œuvres consacré à l'art fantastique, et où l'on disait par exemple que l'on réunissait des masques africains ou océaniens, etc., ne nous paraissent fantastiques que parce que nous ne sommes pas à l'intérieur de ces religions. Mais ces Fuégiens ou ces Océaniens considéreraient comme tout aussi fantastique une nativité ou une crucifixion ou le sacre de Napoléon Ier par David. C'est-à-dire que le fantastique est comme toujours relatif à la culture et lui apporte contradiction.
C'était Roger Caillois au micro de Jeannine Worms, 10e volet d'un entretien en 12 parties, première diffusion de cette émission le 2 juillet 1970. À suivre.